the names.
Stand, this is not a game. Stand,
no, they're not all the same. We're here to wake up, not to shame.
Ayaklan, usandık artık nefretinizden. Ranta savaşa silaha bayrağa paraya pula köle bu düzenden.
Vodki,
niçin bunca kan diye bile soramadan. Ezberlediğimiz bu marşlar ve duaların hepsi birer yalan.
Vodki,
nasıl büyür bu çocuklar? Nasıl bakarız birbirimize?
Ah,
gün açmazsa bu dağlar, bu toprak kime yarar?
Vodki,
hatırla geçmişi.
Susma,
aç gözlerini. Hatırla mesele yaşamak insanca ve birlikte. Bu direniş bizim.
Vodki, terelemet kovdum.
Bu direniş bizim.
Vodki, badiraze babu. Vodki, önme kaldır vuruş edenler dün öpüle. Vodki, zerzayne basrasre.
Qu'est-ce que c'est pas que nous faisons? Quelle est cette danse que nous dansons? Je ne reconnais aucune mélodie, tout n'est que ténèbres et bruit. Dans un fracas assourdissant, vous faites taire toute envie. Vos bombardements incessants ont pris tant de vie. Je n'entends que ces avions, ces urnes me donnent le bourdon. Les balles sifflent un air à feu, votre conquête sonne creux. Vos paroles ne sont que des cris, vos cris ne sont que des coups qui nous emportent dans le lit de la rivière des fous.
Entre vichav churpar tratav meche vuisas angel meta herdin ki mech hokin ela negach kynyene vgorsa meta. Hazar merap sırda mi var yanki hamam? Her yer merap, hazar merap sırda mi var yanki hamam? Ekmezi, ujelu, yeskezi, sirelu, tunizi, harkelu, ekmezi, abrelu, anam mezi, kafzenelu, ekmezi, abeselu.
سر به سنگ آمدن یا تا سری در سر خم کنی من آها تو من همه گم کنی مغنی نوای دگر ساز کن دلم تنگ شد مطرب آواز کن.
Et en petit bonus ce soir, une double délégation pour terminer cette spéciale Eurovision Alternative 2023. Une délégation turco-danoise, en l'occurrence, avec le groupe Heisei et sa chanteuse Luna Ersain, née d'une mère danoise et d'un père turc. Un carrefour des cultures, comme avec le collectif Metz Bazar que l'on écoutait précédemment. Un message de paix, mais aussi un doigt d'honneur de la part de l'équipe d'Au-delà du RL à l'intention des fières manifestantes et manifestants à qui l'on a permis de défiler cagoulé le samedi 6 mai dernier à Paris. Alors, je comprends pas bien. La cagoule, c'est pour la sécurité de qui ? On s'écoute Souakar de la délégation turco-danoise ASA. Bonne soirée sur Radio Liberté.
Sono le 22:30.
Thank you. importante per l'Europol è che gli stati nu.
Radio Libertaire, bonsoir, de nouveau de nouveau en direct sur l'antenne de Radio Libertaire. C'est le post non-radio show qui commence à l'instant. J'ai toujours la voix cassée, comme vous pouvez l'entendre. Et avec moi, donc je vais pas trop non plus énormément parler. Enfin, je pense, parce qu'en plus je suis un peu fatigué ce soir. Et avec moi en studio, toujours du même côté, il y a Guy.
Bonsoir.
Salut Guy.
Oui.
Et de l'autre côté, en face de lui, il y a Michel.
Qu'est-ce qu'il raconte?
Alors, non, Patrick.
Oh.
François, Jérôme.
John.
Et les autres.
Ah non, c'est Yves, il y a Yves en face. Salut.
Tout à fait. Oui, oui.
Bonjour.
Alors attends, est-ce que tu as le bon micro?
Ça va là? Ça marche?
Est-ce que tu parles bien?
C'est le bleu, c'est ça?
Oui.
Oui.
Ça marche?
Ça marche, ouais.
Ok.
Donc, je disais, Radio Libertaire, le 89.4 de Post dans le Radio Show. Voilà. J'ai encore la voix éraillée. Ça va durer encore un peu de temps, je pense, jusqu'à ce que voilà, ça s'améliore et que vos oreilles et les miennes soient soulagées. Bon, on va faire avec. Donc ce soir, il fait un peu froid, c'est le retour de l'automne. Hein ?
C'est arrivé d'un seul coup.
Oui, c'est vrai.
Oui. Bah oui, c'est comme ça, hein, oui.
Donc, on en est que nos deux amis vont prendre la parole. D'un côté, c'est le monde libertaire. Et de l'autre, c'est le monde tout court. Enfin, il n'y a pas que le monde. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer ou je balance quelque chose là? Non.
Peut-être une introduction musicale, oui, oui.
Alors oui.
Enfin, t'as déjà pris quelque chose, hein, qu'on a reconnu, bien sûr, mais...
Alors, qui s'accordait bien avec ce qu'on a écouté précédemment. C'était un peu comme ça, avec des airs du thème précédent de l'émission précédente.
De la semaine dernière, oui, oui.
Non, juste avant, là.
Ah, juste avant, là aussi, oui, oui.
De la DURL.
Oui.
Je dirais un mot de la programmation musicale tout à l'heure. Là, juste un autre morceau, mais avant, une bande-annonce d'un film qui est sorti en janvier 2023. Mais comme en janvier, j'étais un peu dans le coma, il faut dire, et... donc, pas vraiment présent. Je ne sais pas s'il est toujours à l'affiche. Mais voilà, bande-annonce du film roumain, Radio Métronome.
D'accord.
Uite, tata, ne vedem câțiva colegi la Roxana. Ascultăm muzică, mai povestim.
Metronom 72. Prezintă Cornel Chiriac.
Dragă Cornel, suntem un grup de prieteni, colegi în ultimul an de liceu. După cum știi, viața în România s-a schimbat mult de când ai fugit tu. Propaganda de partid și-a întins încet tentaculele peste viața noastră. Cu toate astea, noi încercăm să ne ținem tare.
Ce cauți aici?
Am venit.
Ai zis că nu vin.
De ce să nu vin?
Cine e gazda?
Ce am făcut atât de rău?
Ați întâlnit clandestin, ați complotat, ați scris scrisori, ați contactat cetățeni străini care să ia scrisorile să le duc la Europa Liberă. Răghiți ce? O să am grijă de chestia asta.
Nu am nimic de declarat.
Tu-ți bagi joc de noi?
Aici e vorba de temiță, băi, tâmpitul, de angrei de închisoare. Tu realizezi asta?
Iartă-mă!
Tu ce vrei să-ți distrugi tot viitorul pentru ceva ce nici măcar n-ai făcut? De ce te porți așa?
Of the snatcher tools and
Radio Libertaire, Radio Libertaire. Là, ce titre de poésie électronique qui est le nom du groupe se marie assez bien à l'ambiance de la bande-annonce que l'on a écoutée. Alors, deux petits mots. Tout déjà sur le groupe qui sonne très années 80, électrique, orchestral manœuvre in the dark, visage, etc. Mais qui est en fait un 45 tours vinyle paru en 2007. Et puis, cette bande-annonce de Radio Métronome réalisée par Alexandre Loubelk. En résumé, l'action se déroule à Bucarest en 1972. Et le personnage de Anna a 17 ans et elle rêve comme beaucoup d'adolescents à cet âge d'amour et de liberté. Et un soir, elle rejoint un ami pour une petite fête un peu secrète qui se sont organisées où ils ont décidé d'écouter. Alors, cette bande-annonce aurait pu faire partie de l'émission thématique Radio Free Europe que j'ai fait à l'automne dernier, mais le film n'était pas sorti et je n'avais pas la bande-annonce sous la main. Une soirée où ils se décident à écouter Radio Free Europe, à qui ils ont envoyé une lettre. Ils ont envoyé une lettre à une émission parlée en roumain par une présentatrice roumaine sur Radio Free Europe. Et c'est là que débarque la police secrète de Ceaușescu, la Securitate, parce que ce que ne savent pas la bande d'ados, c'est que parmi eux, il y a un mouchard qui les a balancés. Voilà, c'est un film qui n'a pas l'air d'être drôle du tout. Mais bon, puisque cette émission tourne quand même aussi un peu autour de la radio,
oui.
Voilà, donc Radio Métronome, si ça intéresse, moi je sais pas trop si je regarderai, ça n'a pas l'air franchement très gay. Hein.
Non.
Parce que à un moment donné, on entend un bruit dans la bande-annonce, un des ados se prend une baffe monumentale par un flic. Alors déjà, les interrogatoires sont très musclés.
Oui, oui.
Donc je vous dis pas le reste du film. C'est bon, enfin bref. Voilà. On commence avec vous deux, ce qui va me permettre de me reposer un peu, parce que là, j'ai vraiment la voix en souffrance ce soir. Yves.
J'ai un petit truc rapide à présenter qui en fait j'aurais dû le présenter déjà quand j'ai parlé de quelques sujets tirés du Monde Libertaire, du numéro 1849, c'est le mois d'avril, hein. Qui explique, il est très court, il est pas mal, il explique pourquoi en fait on parle tant dans ce numéro-là du nucléaire. Voilà. Ah, voilà, pas d'atome crochu avec le nucléaire, c'est l'édito, hein, tout simplement. Écrit par un dénommé Bernard. Alors, encore un Monde Libertaire à pagination exceptionnelle, dossier oblige, le printemps est là. Malheureusement, le chant des oiseaux est couvert par les déclarations forcément nécessaires des décideurs pour le futur. Un air vient de plus en plus régulièrement sur la nécessité du recours à plus d'énergie nucléaire. Paraît que c'est ça, ou alors la planète est en ébullition. Alors, de plus en plus d'écologistes sérieux car réalistes se mettent au diapason des nucléocrates pour entonner le mantra. Et ce mantra, c'est « le nucléaire vert est ton ami ». Il faut dire que plutôt que de mettre fin au règne de la voiture, bien plus simple de faire croire aux bienfaits de la voiture électrique, et hop, les besoins en électricité augmentent. Vite, une centrale nucléaire, je suis garé en double file pour ne parler que des voitures. Alors, fut un temps où le mouvement antinucléaire avait le vent en poupe. C'était tonique, imaginatif, souriant, combatif, pour un avenir radieux car non irradié. Actuellement, de plus en plus de jeunes militent et luttent pour que leur avenir soit simplement viable. Combien parmi eux favorables au nucléaire vert ? Oubliez une foultitude de questions concernant la sécurité actuelle liée à la vétusté des centrales, les risques sanitaires encourus, la gestion des déchets et donc l'insécurité future, le néocolonialisme lié à l'approvisionnement en matières fissiles, etc. Voilà, tout s'enchaîne. Oubliez que nucléaire, ça rime avec militaire. Alors, ce dossier conséquent, en lien avec la campagne antinucléaire fédérale, décidé lors du dernier congrès. Bonne lecture à vous. Voilà, donc c'est pour cela, c'était donc lié à la décision du dernier congrès de la Fédération anarchiste qui a dû avoir lieu et ben, juste avant ce, ou en même temps que ce numéro, fin avril, début mai, puisque le numéro là est de le numéro 1849 du mois d'avril 2023. Voilà.
On ne meurt plus d'amour, on ne meurt plus d'amour, on ne meurt plus d'amour.
Radio Libertaire 89.4. Oui, Guy, tu disais. Là, en ce moment, c'était sur le nucléaire, là.
Voilà, l'édito du Monde Libertaire, donc ce numéro. Numéro 1849.
Le numéro de mai, c'est ça?
Oui, qui expliquait en fait que la Fédération anarchiste avait voulu faire.
Est-ce que la Fédération anarchiste est pour les éoliennes et les panneaux solaires? Oui, certainement. Faut bien trouver moyen de remplacement, non?
Oui, tout à fait. Oui.
À moins qu'il soit pour les hamsters. Qui tournent dans la roue.
Ah, c'est une idée, ça.
Mais les hamsters, il va en falloir des millions.
Ah oui.
Des millions de hamsters.
Aïe, oh les pauvres.
Il faut les faire bouffer.
Ouais.
Oui.
Il faut les faire tourner.
Donc, il faut l'agriculture, donc il faut de l'azote, et on en arrive à mon sujet.
Des usines.
Ah, bah ça y est, il a sauté à son sujet.
Des usines.
Ah oui, il faut de l'azote.
Des fermes à hamsters.
Oui.
Sur des dizaines d'étages. Dans leur petit trou.
Ouais.
Ouais, donc, ton sujet, Yves. Ben,
je voulais parler d'un article que j'ai vu le 15 mars dans Le Monde, toujours, qui était « Pays-Bas, le plan azote devient un test électoral pour la majorité ». Alors, depuis les élections ont eu lieu, donc on connaît le résultat. Mais cet article m'avait intéressé, je vais différer un peu le résultat, parce que...
Dans le micro, s'il te plaît.
Mais j'arrive pas à rentrer dans le micro. Je peux parler dans le micro, mais
je parle dans le micro.
Ah d'accord, je parle. Je sais
oui, tout.
D'accord. Et donc j'avais été. Ah, c'est mon côté autiste.
Pas trop. J'aime pas les.
Alors le blague, il veut rentrer. Il a pas de limite. Hein. Il veut rentrer dans le micro. Il veut.
Moi, je vais rentrer dans l'art, l'autiste.
Mais oui, c'est pour. C'est pour te cacher ou bien quoi?
Le rêve, enfin.
On le fout en boîte.
L'autiste. Il va se. Allez.
Donc, aux Pays-Bas, on avait des élections régionales, à vrai dire, avec un premier ministre libéral qui est en place depuis 2010 et qui s'appelle Mark Rutte. Et il avait évidemment en face de lui un certain nombre d'autres candidats, notamment à l'extrême droite, un mouvement. Je ne sais pas ce que c'est extrême droite. Attendez, si. FVD de M. Thierry Baudet, europhobe et extrémiste de droite, qui était arrivé en tête lors des précédentes élections, devenant majoritaire même dans 3 des 12 provinces du Royaume. Enfin bon, il y avait donc un certain nombre d'incertitudes. Et en fait, le sujet de l'immigration et qui est un thème assez porteur aux Pays-Bas, s'est vu un peu détrôné.
On se demande où est-ce que ce n'est pas porteur.
C'est vu un peu détrôné par un autre sujet, c'est le plan azote du gouvernement, qu'ils appellent le Route 4, qui visait à réduire les émissions de 50%, les émissions d'azote, de 50% à l'horizon 2030. 2030, c'est dans 7 ans. Et... Ouais. Ça supposait une réduction du cheptel de 30%, le rachat de centaines de fermes parmi les plus polluantes, des déplacements et des cessations d'activités. Alors, l'azote, peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais l'azote...
Non, on ne voit pas.
Attends.
Pas encore.
L'azote, c'est un gaz, d'abord, qui représente 78% de l'atmosphère terrestre et parfaitement inoffensif pour l'homme. Donc on se demande pourquoi on parle de l'azote, mais ce n'est pas sous cette forme-là. La crise de l'azote, ça ne concerne pas l'élément azote lui-même, ça concerne sa libération, la libération de composés réactifs de l'azote, à savoir il y a l'ammoniac, qui est NH3, les nitrates, les différents oxydes d'azote, appelés NOx, qui eux sont nocifs, on les trouve dans les voitures. Et en 2018, les principales sources d'émissions d'azote pour les Pays-Bas étaient l'agriculture, à raison de 46% des émissions de NH3, donc d'ammoniac, les pays étrangers, 32% des émissions de NOx, de NOx et de NH3, transport routier, 6%, donc le gros problème, c'est l'agriculture. Et le problème de l'agriculture, donc, il est pointé depuis longtemps. À partir du moment où les Pays-Bas ont décidé de faire de l'agriculture leur principale activité, en fait, les Pays-Bas connaissent depuis 1950 une concentration économique de l'agriculture Et ils se sont tournés vers un modèle de production extrêmement intensif et polluant. Et ils sont en 2022 le deuxième exportateur agricole mondial. Il y a environ 4 000 éleveurs laitiers à proximité des zones Natura 2000, les plus vulnérables, sur un total de 17 000, qui ont une influence directe par leurs émissions d'azote. Une partie du problème, c'est le fumier, le surplus de fumier, contre lesquels les responsables du ministère de l'Agriculture avaient mis en garde depuis 1965 en raison de l'augmentation d'échelle de l'agriculture. Et les mesures limitatives sont apparues en plusieurs, à plusieurs moments. Le problème n'est donc pas nouveau. Mais donc, ce que je voudrais signaler, c'est que ce gouvernement donc, propose brutalement donc, de viser, de réduire les émissions à 50%. Et à l'horizon 2030, et réduction des cheptels de 30%, rachat de fermes. Il y a déjà eu 18 000, à la suite d'un programme qui s'appelle PASS, qui est rentré en vigueur déjà le 1er juillet 2015, donc ce n'est pas un problème nouveau, hein, c'est un problème récurrent. On a eu 18 000 projets gelés suite à l'annulation du PAS. Une décision qui a rendu illégal les permis de 2958 fermes. Bref, il y a un gros problème avec les fermiers. Et il s'est créé un nouveau parti en 2019, le Mouvement Agriculteur Citoyen. Les initiales, c'est BBB. Qui comptait bien capitaliser sur le mécontentement des fermiers et des éleveurs, soutenu eux-mêmes par une partie de l'opinion. Alors cette formation, elle était créditée, elle avait obtenu en 2019 100 000 voix. Elle avait eu 1% des voix au total, c'est en 2021, 1% des voix. Et elle était arrivée en 16e position. Elle avait eu un élu sur 150. Et là, brutalement, en 2023, elle a eu 1 million, donc deux ans après, 1 488 372 voix, selon Wikipédia, que je remercie au passage, soit 19% des voix. Elle est devenue le premier parti. Elle a raflé les sièges des 12. Elle est arrivée en tête dans les 12 provinces. Et donc, ça a mis à mal le gouvernement. Le problème, c'est que cette assemblée qui, une fois élue, nomme le Sénat. Et le Sénat était jusqu'à maintenant ancré pour soutenir le gouvernement, qui est un gouvernement centre-droit, disons. Et ça n'est plus le cas. Voilà. Alors, celle qui a gagné, c'est une dame qui s'appelle Caroline van der Pla, et qui dirige un mouvement qui, en français, s'appelle le Mouvement Citoyen Paysan. Il faut se rendre compte que l'extraction du gaz dans la région de Groningue, dans le Nord, c'était un autre sujet sensible aussi. Il y a eu ça a entraîné la dégradation de milliers de logements victimes d'affaissement et de séismes. Les propriétaires ont été livrés à eux-mêmes et pour beaucoup de Néerlandais, cet autre dossier témoignait de l'indifférence coupable des dirigeants. Une forte réduction de la production de gaz ainsi que des excuses présentées par M. Rutte ne suffisaient pas apparemment à calmer leurs collègues. Et bon, voilà. Donc, ce que je voulais souligner, c'est un problème donc traité comme ça, un peu. C'est pas un problème nouveau, mais un problème avec une accélération des décisions très vives dans un contexte qui n'est pas le nôtre, hein, avec des problèmes tout à fait différents, aboutit à l'émergence d'un mouvement en deux ans qui passe de 100 000 voix à 1 million, presque 500 000 voix.
Tout ça à cause du fumier.
Bon, je voulais attirer l'attention là-dessus parce que c'est en fait, ça peut arriver ici, c'est arrivé un petit peu avec l'élection de Macron, un peu même processus, quelqu'un sortait de nulle part, sauf qu'il était déjà ministre, bon, mais qui crée son mouvement et qui, quelques années après, assez rapidement, prend le pouvoir. Bon, voilà, je voulais parler de ça. C'est tout ce que j'ai à dire, disons. Pour l'instant, en tout cas.
D'accord, ok. Ah, super. Tu nous laisses avec le tas de fumier, quoi.
Mmh. être beau. Là-bas, dans la chambre, les volets restent fermés. Là-bas, je serai le favori parmi les enfants. Chapelle des saintes innocentes. Le baron m'a enfermé.
The Boston Radio Show. Et juste avant ce titre, Herman Kopp, qui était lui plutôt inspiré par le fameux Gilles de Rais dans un 45 tours qui tourne autour de Gilles de Rais. Et la phase B s'appelle Le Château, qu'on écoutera plus tard. Je vous rends l'antenne.
Guy, tu...
Passeport, oui.
Oui.
C'est une belle page sur ce qui se passe en Italie. C'est actuel, hein, contre le gouvernement fasciste, contre le 41 bis. Vous allez voir ce que c'est que le 41 bis. Contre la criminalisation des luttes. Communiqué de la Fédération anarchiste italienne le 11 mars hein, 2023. C'est tout récent. Donc au Congrès national réuni à Livorne. Les fascistes au gouvernement s'attaquent violemment à toute forme d'opposition sociale et à tous les domaines de l'existence. Et s'en prennent.
Alors déjà qu'un gouvernement considéré comme non fasciste, comme le nôtre, s'attaque déjà. Bon, ben voilà quoi.
Oui,
oui.
On bon, comprend ça, tout de suite.
50 nuances de gris quoi.
Voilà. Et en s'en prenant brutalement à l'école, à la culture, à la liberté, ben voyons, à la liberté des individus non conformes, ce qu'on appelle non conformes, hein, la liberté des femmes aussi, en étendant la guerre aux migrants, migrantes, aux ONG, en condamnant la pauvreté des secteurs les plus démunis de la société, en accroissant l'engagement militaire de l'Italie sur les différents fronts et en imposant une militarisation de plus en plus poussée des territoires, avec des lois répressives contre les ONG, des décrets, le décret Coutreau, sur les centres de rétention, les frontières et l'accueil humanitaire, contre des mesures aussi, contre le mouvement des fêtes libres, le mouvement des squats.
Attention, quelqu'un touche un peu trop au pied de son micro.
Oui, c'est peut-être moi, celui que je me suis
approché. D'accord, ok.
Attaque contre les retraites. Tiens, c'est curieux aussi, contre les modalités déjà faibles d'aide sociale, etc. Telles sont les principales mesures adoptées par ce gouvernement dans un quotidien fait de mort au travail, d'exploitation et d'oppression. Il faut y ajouter le recours de la pénalisation du délit, d'actes obscènes dans un lieu public, par exemple, la reconnaissance du statut juridique de l'embryon et le délit de terrorisme de rue, voilà, qui se profile déjà à l'horizon. Partout donc. Hein. Alors dans ce contexte, eh bien, les fascistes au pouvoir ne peuvent permettre à personne de remettre en cause le système carcéral, des charges sociales et instruments de répression. La prison est une institution totale, produit d'une société fondée sur la domination et l'exploitation, l'un des nombreux visages de la violence d'État. Alfredo Cospito, qui a été de fait condamné à mort car, par sa grève de la faim, il a rendu visible la torture du 41 bis, l'un des instruments institutionnels les plus brutaux de la violence carcérale. La Fédération anarchiste italienne dénonce la grave persécution infligée à Alfredo Cospito et l'acharnement de la Cour de cassation qui lui a confirmé l'application du régime carcéral du 41 bis à son encontre. Nous sommes solidaires des personnes qui ont été réprimées ces derniers mois pour avoir manifesté contre le 41 bis et la réclusion à perpétuité incompressible. Même de simples initiatives de rue sont désormais traitées comme des actes terroristes. Nous sommes face à une criminalisation explicite du mouvement anarchiste. C'est très grave. Une partie des médias officiels, le gouvernement, les appareils d'État, essaie de présenter les anarchistes comme étant la principale menace pour la société. Ne trouvant aucun fondement à leurs accusations, ils reproduisent le vieux stéréotype des anarchistes à mi-chemin entre utopistes, naïfs et fous sanguinaires. Cela ne nous étonne pas, l'État a peur des anarchistes, surtout quand ils et elles sont ancrés dans la société et sur les territoires, engagés au sein des coordinations de syndicats, des comités, des assemblées populaires et des situations de lutte sociale. Le fascisme, ennemi de toute liberté, a toujours cherché à détruire le mouvement anarchiste. Le mouvement anarchiste a toujours maintenu un engagement antimilitariste et internationaliste, clair, pour la paix entre les opprimés, contre les guerres des États. Un engagement qu'il confirme encore aujourd'hui, alors que le gouffre de la guerre s'ouvre sur l'Europe, en prenant d'une part active aux grèves, des manifestations, rassemblements et aux nombreuses initiatives contre la guerre. Ce n'est pas un hasard si ce gouvernement, qui a décidé de mener jusqu'au bout l'étau autoritaire et la politique belliciste des gouvernements précédents, vise précisément le mouvement anarchiste. Nous sommes à un tournant autoritaire qui se déploie sur plusieurs fronts et interroge les mouvements d'opposition sociale sur l'énorme difficulté du moment et la nécessité de rassembler les forces pour y faire face. La Fédération anarchiste italienne appelle les organisations sociales, syndicales, politiques, les groupes, les collectifs, les associations et les individus qui s'identifient aux idéaux de liberté et de justice sociale à construire un large mouvement de soutien à la lutte d'Alfredo Cospito contre le 41 bis, à rejeter toute tentative de criminalisation et de répression du mouvement anarchiste, des mouvements de lutte et de contestation en général. Ce mouvement, nous en formons le vœu, saura combiner la lutte contre la prison avec celle contre la guerre, les frontières, le militarisme, l'exploitation des corps et des territoires. Voilà, c'est la Fédération anarchiste italienne qui a fait ce communiqué, qui a été traduit par Monica Jorné du groupe Gaston Couté de la Fédération anarchiste.
Thank you.
Libertaire, on récupère la parole. Ah, c'est un jeu de mots avec le titre. Enfin bref. À qui? Yves.
Oui, ben je vais continuer avec Madame Caroline van der Pla. Pour noter simplement que ce modèle d'agriculture extrêmement fort, puisque c'est le Pays-Bas sont le deuxième exportateur mondial actuellement de produits agricoles, ce qui n'était pas le cas en 65, j'ai dit. Au contraire, il y avait des scientifiques qui mettaient en garde contre le modèle qui était en train de se développer. Donc, ils ne tiennent pas compte des mises en garde. Et ensuite, on arrive à un problème. Le pays est le deuxième exportateur mondial des produits agricoles et agroalimentaires. Et on voit qu'il y a un problème avec l'azote. Bon. Pourquoi est-ce qu'elle est élue ? J'ai l'article du Monde qui dit que... Les gens sont mécontents. Il y en a qui jugent que le sort réservé aux agriculteurs traduit aussi le mépris d'une élite urbaine et pro-européenne à l'égard d'une périphérie laborieuse qui peine généralement à se faire entendre. Le programme de Madame van der Pla, qui est en fait partie d'un mouvement qui s'appelle l'Appel chrétien-démocrate à la suite des élections de 2019, en reprochant à celui-ci de ne pas assez prendre en considération les électeurs ruraux, elle a un programme qu'elle appelle libéralisme social, c'est-à-dire concrètement, devinez, allègement des impôts, bon, pour ceux évidemment qui en payent beaucoup, j'imagine, et des normes. Bon, il y en a toujours trop, dit-on. Nationalisation du secteur énergétique, politique de l'asile plus stricte, tiens. Aide pour les étudiants souvent endettés, ça c'est pour le côté sympa, quoi. Et elle estime, cerise sur le gâteau, que le changement climatique a existé de tout temps, j'ouvre les guillemets, a existé tout tout temps, je les ferme.
La preuve, les dinosaures sont bien morts de quelque chose.
Sans nier que l'activité humaine puisse l'accélérer, et je dis bien « puisse », dit-elle, entre guillemets. Donc voilà le personnage. Et moi, donc c'est quelqu'un qui va développer une politique qui est un peu dans le style de celle que nous, on a développée également. Et là, je vais revenir un peu en France. On a des procédures d'autorisation qui ont été attaquées, des procédures d'autorisation des pesticides qui ont été attaquées par 30 ONG et 28 députés qui ont saisi le Conseil d'État afin de réviser le processus de mise sur le marché. Et le problème est le suivant. Lorsqu'on met un pesticide sur le marché, les analyses de toxicité à long terme et de cancérogénicité portent sur la substance active et non pas sur l'ensemble du produit. Et alors, il y a des publications scientifiques qui ont mis en évidence la présence de composés non déclarés par les fabricants, des choses comme l'arsenic, le plomb, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés perfluorés, aussi la toxicité de ces cocktails, que sont des formulations complètes, pourrait être très supérieure à celle des substances actives déclarées. Alors là, on tombe déjà sur le cul que seule la substance active soit testée pour dire que c'est mettable sur le marché ou pas. Et dans un arrêté rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, cet arrêté donc dit que les procédures conduisant à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique doivent impérativement comprendre une appréciation non seulement des effets propres des substances actives contenues dans le produit, mais aussi des effets cumulés de ces substances et de leurs effets cumulés avec d'autres composants du dit produit. Comme dirait l'autre, voilà le retour des normes. Bah oui, mais il semble que ce retour des normes ne soit pas complètement inutile. Très critique avec le système actuel d'évaluation des risques, la Cour de justice de l'Union européenne ajoute que des tests sommaires réclamés par les autorités sanitaires ne sauraient suffire à mener à bien cette vérification. Et pour Marie Pouchon, il y va de la responsabilité de l'État de transposer le droit européen et de mettre en application l'arrêt de la CJUE. Contacté par Le Monde, le ministère de l'Agriculture était au champ et n'a pas répondu aux sollicitations du Monde. Donc,
c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire dans l'écologie dont on se réclame certains qui en ont fait une sorte de nouveau cheval de bataille et en même temps s'attaquer au productivisme. Donc on est là avec des tas de gens qu'on tue entre deux chaises qui veulent pas. Et bah si.
Pas tout à fait, il y a quand même...
Par exemple, tu parles de ce produit qui est contrôlé, mais qui fait partie d'un ensemble de produits tout aussi néfastes, qui ne sont pas contrôlés, avec des gens qui demandent l'abaissement des normes ou la disparition
de
certaines modes, certaines normes, qui feraient qu'on ne contrôlerait plus ces produits. Pourquoi ? Pour conserver le même taux de productivité, etc. On est dans le serpent qui se mord la queue, quoi.
Je ne veux pas employer des gros mots, mais la
politique,
mais la politique qui consiste à dire les normes et les bureaucrates, etc., cette politique a ses limites, et ses limites, elles arrivent actuellement...
Oui, parce que...
Bon, mais
ces gens-là...
Je voudrais conclure, là, parce que on a, nous, une commission nationale de déontologie et des alertes en santé publique et environnement. Et en environnement. Ça s'appelle le CNDASPE. Il a une... Bon, lui demande son avis, il donne son avis, et puis on en tient compte ou pas. Évidemment, on n'en tient pas compte. Mais il avait examiné les dossiers d'autorisation de plusieurs produits et avait constaté qu'aucun d'eux n'avait été soumis aux études prévues par la réglementation européenne. Alors... Bon, il y a quand même des petits problèmes. Est-ce que cet règlement européen est complètement absurde, il coupe les cheveux en quatre, etc. La situation est jugée fâcheuse par le président du CNDASPE, le professeur de santé publique Denis Zmirouk-Navier, ancien président du département santé, environnement, travail de l'école des hautes études en santé publique. Certains co-formulants visent par exemple à accentuer la capacité du produit à pénétrer dans les cellules de l'organisme ciblé, donc potentiellement dans les cellules humaines, précisait-il. Aujourd'hui, les risques liés à ces effets ne sont pas bien caractérisés. Et dans ses recommandations, cette CNDASPE invitait l'ANSES à prendre en compte dans l'évaluation des risques pour la santé et pour l'environnement les effets potentiels du cumul des diverses composantes des préparations commerciales pour lesquelles lui seront soumises les demandes d'autorisation de mise sur le marché. La Commission enjoignait aussi au gouvernement de renforcer les moyens alloués à l'ANSES afin qu'elle soit en mesure de satisfaire les prescriptions européennes lors de l'examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché de chacune des préparations commerciales. Donc, je précise, cet avis, je l'ai déjà dit, il est consultatif et il est resté lettre morte. Donc, les conséquences, c'est qu'il y a eu un recours qui a été introduit le 2 février par les associations et parlementaires. Et le caractère illégal des dérogations accordées en France et en Europe a été une nouvelle fois... Enfin, l'Europe a signalé simplement quand c'est interdit, voilà, c'est tout. Et donc, on ne peut pas reporter comme ça, on ne peut pas donner des dérogations. Ce sont les Belges qui ont fait un petit exploit. C'est la juridiction belge qui s'est tournée vers la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, ça ne vient même pas de nous. Voilà, ça c'est un premier point sur les pesticides. Alors, les 30 ONG, je voudrais quand même en signer quelques-unes. Il y a Notre Affaire à tous, la Confédération Paysanne, Génération Future, Agir pour l'Environnement ou encore des fédérations d'apiculteurs qui sont réunies sous la bannière de la campagne Secret Toxique aux côtés de 28 députés, à l'instar de Loïc Prudhomme, élu de la France Insoumise, de Gironde ou de Sandra Rigol, députée d'Europe Écologie des Verts, du Bas-Rhin. Et tous se recrutent dans les rangs de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUPES. Voilà, c'est comme ça.
Ok, super. Donc,
la même page, là, je vais juste lire le titre pour dire que l'expertise sur les mégabassines... Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, mais je te laisse la parole.
C'est quoi que c'est, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui.
Je voulais rien dire.
C'est bon, là.
Je voulais rien dire.
Excuse-moi.
Je parle trop.
Oui.
Ah, c'est terrible.
Alors, non seulement tu parles trop... Mais alors, avec des sujets, c'est pas des sujets du vendredi soir.
Non.
Donc, je vous enjoins, mes deux camarades, là, pour vendredi prochain, si c'est possible, faites dans la joie, quoi.
Ouais.
Faites dans le divertissement. Merde. Non, parce que là, déjà qu'on n'a pas d'auditeurs, là, vous plombez tout avec vos, vos quarts d'heure de lecture d'articles. Le nucléaire.
Moi, je pense le contraire. Je pense que c'est le genre de sujet qu'on entend assez peu.
On l'entend quand même. Non. Moi, j'ai l'impression qu'on en entend parler. Non, pas du tout. Il n'y a plus personne. Alors déjà...
Si, on est là, si, mais bon...
J'ai du mal à tenir le cap avec les petites musiques.
C'est très bien.
Pour enjoyer la foule. Ouais. Si en plus, vous plombez tout.
Voilà. C'est la fin du monde.
Ouais.
Bon, c'est déjà pas mal d'organiser la fin du monde. Hein, c'est fort.
Bon, j'en profite pour dire ce que je voulais dire, c'est la CESE. Au méca bassine. Voilà, la CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui émet 23 représentations pour améliorer la gestion de l'eau et sa gouvernance. C'est un cheveu sur la soupe, mais j'aime bien les cheveux sur la soupe.
Ok,
voilà.
Puis, ça serait bien aussi de nous faire une lecture, tu sais, vivante.
Oui.
Vivace.
Oui, je suis désolé, il y a des sujets qui sont sérieux.
Oui, bien sûr, voilà. Des sujets qui ne sont pas faits pour le vendredi soir. Non, parce que le vendredi soir, les gens, ils boivent l'apéro et après, ils vont en boîte. Donc, excuse-moi si on n'est pas là pour les faire chier. Allez, musique.
Mais s'ils sont en boîte, ils n'écoutent pas Radio Libertaire. Donc, ils restent chez eux, des gens qui écoutent Radio Libertaire et qui ont envie d'entendre des trucs sérieux. Bon, chacun son truc.
Mais il se noie
le libertaire.
Oh, on a dansé, j'en en peux plus.
Oh, c'est dingue, ouais.
Ah, ça suffit, là, les vieux. Ça suffit, les vieux. Un mot.
Ah, alors
ouais, si j'y arrive. Un mot sur le double album qui va clôturer cette émission et dont on va entendre, écouter de très larges extraits. John Driscoll, Ghostly Agents. John Driscoll est un compositeur qui a créé un groupe qui s'appelle The Composers Inside Electronics. Il a collaboré avec David Tudor, avec également Phil Edelstein, des compagnies de danse. Il a pas mal écrit pour des installations sonores dans des galeries d'art et des musées. Et il est surtout focalisé, enfin, principalement, sa conception musicale tourne autour d'instruments robotisés. Donc on s'écoutera des extraits de ce double album qui date de 2020, là juste après que nous ayons laissé l'antenne, mais ce n'est pas encore l'heure.
Ah bah non, on a encore des trucs à raconter.
Super. Ah oui, c'est ça, allez. Alors vas-y, oui.
Tu es vague ou tu...
Ben oui, oui, mais... effectivement, mais j'ai un truc assez long quand même. Mais...
Ben vas-y.
Ben c'est surtout... je vais surtout lire la partie qui donne l'histoire de Bure, parce que l'histoire de Bure, comme ça, on dit oui, bon, il y a des déchets nucléaires, et puis il y a une lutte contre la fabrication donc de la poubelle nucléaire qui va être souterraine, hein, voilà. Mais en fait, ça dure depuis très très longtemps, hein, d'une trentaine d'années, hein. Ouais. Depuis 30 ans, c'est en 3-4 petits paragraphes, ça va aller assez vite, et c'est l'historique un petit peu de comment ça s'est passé et qu'est-ce qui se passe exactement pour stocker ces affreuses choses-là. Alors, donc c'est vivant, hein, comme article. Alors, nous donnons la parole aux résistants et malfaiteurs de Bure qui s'opposent à l'état nucléocrate depuis 30 ans. Alors, résistance à la poubelle nucléaire, CIGEO à Bure. La carotte et le bâton de l'État malfaiteur pour mater une lutte existentielle. Alors, l'interminable épopée de l'uranium débute à coups de centrales à charbon. C'est vrai que ça commence par tous ces moyens-là d'énergie, en fait. Hein, voilà. De centrales à charbon, de locomotives, de bateaux, de diesel dans les colonies, en Afrique de l'Ouest, au Canada, en Australie. En alternative, les combustibles d'Asie centrale transitent par Dunkerque, par Hambourg, par Rosatom et puis Kazatomprom, qui font bien sûr leur beurre là-dessus, sous l'œil bienveillant de l'État nucléaire français. La France reste en Occident la championne incontestée, hein, en termes de densification nucléaire par habitant, de déficit financier lié à la politique. À sa politique énergétique monothématique et d'obstination en la croyance au progrès atomique. Un grand problème que partage la France avec ses voisins nucléarisés, c'est l'absence de solutions de gestion réelle des déchets radioactifs, notamment les plus irradiants. La seule option pour les 80 000 mètres cubes déjà produits en France serait de les dissimuler dans un site d'enfouissement souterrain en grande profondeur sous le village de Bure, en Lorraine. Le projet CIGEO. Ben, je trouve que c'est pas mal la manière dont ils abordent. Donc ils vont rechercher très loin le fonctionnement au charbon, et etc. C'est qu'on a vu arriver quand même petit à petit eh bien, les déchets qu'il y aurait derrière tout cela, parce que même les autres matériaux aussi ont produit des déchets, hein. Alors, autrement dit, creusons la terre, concentrons-y les déchets les plus toxiques de notre modernité lors d'un chantier quasi à ciel ouvert d'environ 135 à 200 ans. Refermons, tentons de le faire oublier, tout en croisant les doigts pour que le chantier se passe bien pendant 2 siècles et qu'ensuite, aucun et aucune, aucun futur, en fait, aucun humain du futur n'aille fouiller là pendant au moins 100 000 ans. Voilà. Petit point de suspension, hein, 100 000 ans. Durée pendant laquelle, eh bien, cet héritage empoisonné restera mortel. L'enjeu est de taille, car sans solution, entre guillemets, hein, aux piscines débordantes de La Hague, aux déchets qui s'entassent sur la 20aine de sites industriels actifs de l'atome, le programme actuel de relance du nucléaire rencontre un contre-argument supplémentaire de taille. Sans poubelle, il faut absolument arrêter la production. 3 décennies de lutte se sont écoulées contre l'installation du centre industriel de stockage géologique CIGEO, alternant des hauts, les hauts et les bas. Des enquêtes innombrables, de la joie militante et des sabotages. En 1990, la féroce opposition antinucléaire n'avait connu la France dans les années 70 et 80 et était sur le point de s'embraser à nouveau. Lorsque Michel Rocard a décidé d'un moratoire sur la recherche d'un site d'enfouissement français, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, chargée depuis 1979 de trouver le meilleur emplacement, était alors obligée de se réorienter. C'est fin 91, juste avant de sabrer le champagne du Nouvel An, qu'est votée la loi Bataille, supposée diriger la recherche vers 3 voies, pour les déchets militaires déjà et les déchets civils. La séparation, transmutation, entreposage de longue durée ou enfouissage. L'objectif déclaré, enquêter sur différentes couches géologiques, argile, granit, susceptibles de devenir l'hôte éternel de ce que l'ANDRA s'obstine à nommer des colis. Ah, ils appellent ça des colis. Mais ces cadeaux empoisonnés rencontrent un refus systématique des populations locales. Implantation et contestation, après une opposition virulente aux 4 coins de la France, l'état nucléaire se tourne alors vers cet endroit, vers la Meuse, territoire meurtri, territoire désertifié, démographiquement suite aux guerres et à l'exode rural. C'est en 1993 qu'un appel à candidature commence à séduire certaines personnes, hein, des personnes de pouvoir, en promettant un accompagnement économique important. Malgré une densité de 7 habitants au kilomètre carré, des milliers de personnes se mobilisèrent, notamment en 1995, lors du festival contre l'implantation. Des enquêtes publiques furent l'occasion d'une résistance symbolique puissante. Gérard Longuet, ah oui, à cette époque-là, affreux sénateur meusien et ancien du GUD, devint le principal promoteur du projet et tireur de ficelle. Le département finit par accepter l'installation d'un laboratoire de recherche de l'ANDRA.
Et beaucoup d'argent, quoi.
Beaucoup d'argent, oui. Le département finit par accepter l'installation de ce laboratoire. La décision d'implantation portée par le gouvernement Jospin aboutit au laboratoire souterrain unique de Bure. Et ceci, c'était en 99. Vous vous rendez compte, hein, voilà, hein, il y a 24 ans déjà. Alors, au début des années 2000, de plus en plus d'opposants, d'opposants et d'opposantes, hein, commencent à s'installer alors que les travaux avancent. En plus des batailles administratives, des tentatives de référendum, pétitions de toutes, ignorées par l'État, bien sûr, la conviction de devoir gagner la bataille du terrain au quotidien, comme l'exprime un activiste venu de Scandinavie, se concrétise par l'achat de maisons et de terrains dans les cantons impactés. En 2004, eh bien, on voit l'acquisition de l'ancienne gare de Lunéville et de la maison de résistance à la poubelle nucléaire à Bure, que l'État, en la personne d'un procureur, désigna plus tard comme QG infractionnel. Oh. Alors l'accompagnement, il y aura l'accompagnement du labo. Si la recherche scientifique avait été mise en avant pour duper les élus locaux, les dernières années ont démontré la volonté irréversible de faire du Bure un site définitif. Jocelyne, une habitante d'un village voisin, résume « C'est la mafia, l'Andra a la carotte et le bâton. Celui qui se bouge se fait enjôler. Beaucoup préfèrent se laisser corrompre. Le projet pharaonique supposé tenir 100 000 ans est cependant loin d'être réalisé, mais l'implantation définitive du site hautement sécurisé représenterait un pas crucial. » Voilà, ça serait vraiment un départ qui n'est pas encore complètement acté. Hein, attention, il y a une lutte quand même, comme ils disent, hein, depuis une trentaine d'années. Hein. Alors en 2010, la fin du labo, entre guillemets, s'est concrétisée quand même. Alors Bure sera désormais désigné par la propagande nucléaire comme le futur centre d'enfouissement prévu à 500 mètres sous terre. Voilà, c'est ce qui est. On a parlé au début des 300 mètres, etc. Ça serait maintenant 500 mètres. Hein. Alors, l'augmentation des accompagnements financiers à 30 millions d'euros annuels par département rend le projet de plus en plus attractif. Ce dispositif ressemble à des pots de vin auxquels s'ajoutent des parties de chasse pour corrompre les locaux. On s'imagine hein, tout ce qui suit derrière, évidemment, entre l'État et puis les élus, entre guillemets, des élus. Et les infrastructures des villages arrosés abondamment ressemblent à celles d'une région prospère. Cependant, la réalité, c'est la fermeture progressive des services publics déjà clairsemés. L'accaparement des terres agricoles avance avec l'aide de la SAFER. Et beaucoup d'agriculteurs et paysans se retrouvent les mains liées, dépendant ensuite des baux précaires accordés à celles et ceux qui ne trouvent rien de trop. Alors le débat public eh bien, de 2013 rencontra lui à nouveau une contestation massive. Le réseau Sortir du Nucléaire, entre autres, appela au boycott. Le 23 mai, des centaines de manifestantes ont fait capoter son ouverture de la salle des fêtes de Bure. De nombreuses associations comme la coordination Stop CIGEO ont intensifié les requêtes et lutté autant sur le terrain que sur le plan juridique, mais des années bien plus conflictuelles s'annoncent. Alors, c'est qui les malfaiteurs? Oui, parce que là-dedans, il y a des gens qui sont dénommés des malfaiteurs, hein. Les malfaiteurs de Bure, tout simplement. En 2015, le camping anticapitaliste et antinucléaire VMC regroupe près d'un millier de personnes à l'ancienne gare de Lunéville. En 2016, les opposants déclare l'état d'urgence. L'Andra tente de passer en force en démarrant les travaux de la zone de puits. Elle va commencer à ce moment-là, sans avoir des autorisations quelconques. Attention, hein, toujours, hein, c'est comme ça que ça marche toujours. Elle commence à défricher sans aucune autorisation. Le bois, le Juc notamment, on en a parlé à ce moment-là, hein, était impacté, alors sous lequel des galeries de stockage doivent être construites. Pour le défendre, il est alors occupé, expulsé, réoccupé par des centaines d'opposants. Et le 15 août 2016, un mur illégalement construit par l'Andra pour sécuriser le bois est abattu par les opposants. Cependant, les batailles juridiques ont prouvé l'illégalité des défrichements de l'Andra, quand même un peu, voilà, ainsi que celle de la procédure de vente du bois par la commune de Mandre. Après des affrontements au cours de l'année 2017, une enquête pour association de malfaiteurs vient de se rajouter à une répression déjà intensifiée. Des douzièmes d'interdiction hein, du territoire furent prononcées. Effectivement, hein, attention, il y a eu beaucoup de déplacements de personnes qui ont été refoulées donc, par l'État, tout simplement. Et la zone est devenue surmilitarisée avec le stationnement permanent d'un escadron de gendarmerie au sein même du labo, protégeant les agissements de l'Andra. On a l'impression qu'il n'y a pas de risque, hein, mais quand même, hein, ils sont bien protégés. Alors, des perquisitions d'ampleur, fin 2017, annoncèrent la couleur. On passe au 22 avril 2018, le Bois-le-Juc violemment expulsé. Après une manifestation de 3000 personnes à Bar-le-Duc, en juin, de nouvelles perquisitions menèrent à des mises en examen et des contrôles judiciaires pour certains des militants et des militantes. Interdiction du département de Meuse, de Haute-Marne, de sortie du territoire national même, et de contact entre une douzaine de personnes des différentes composantes du spectre. C'est inimaginable, donc. Hein. C'est très proche de ce qu'on a lu tout à l'heure sur ce qui se passe en Italie. Hein, dans la zone d'incarcération. Hein. Alors, une de ces personnes fit 7 mois de détention préventive après avoir été contrôlée dans le sud meusien. Alors, juridiquement, eh bien, l'enquête spectaculaire hein, avec ses moyens antiterroristes n'aboutira à rien des années plus tard. Mais en attendant, l'État parvint à intimider, à contrôler, à surveiller les antinucléaires. Pourtant, le mouvement a su se remotiver, notamment avec la remobilisation du collectif féministe Bombe Atomique, soulignant son opposition à CIGEO en 2019. Hein. C'est quand même il y a 4 ans, hein, ça tourne. Et pour ce qui est de l'association de malfaiteurs, eh bien, l'État acquittera tous et toutes les inculpés en deuxième instance en janvier 2023. Ça, c'est du récent. Après la grandiose mobilisation du 1er juin 2021 à Bar-le-Duc, à l'occasion du procès en première instance, la Cour d'appel de Nancy ne retint que la manif non déclarée, mais pas interdite, du 15 août 2017, infligeant 4 mois de sursis à une partie des inculpés. Effectivement, hein, la cour d'appel, avec toute la juridiction hein, qu'il y a derrière, les accusations et tout ce qui est demandé par l'État, ça dure des années, hein, parce qu'on revient d'un seul coup en arrière de ce qui s'était passé au 15 août 2017. Hein, vous imaginez, ça va faire 6 ans bientôt. Hein, voilà. Et donc, la Cour de cassation devra juger de manière définitive ce qui va rester de cet épisode dénoncé comme complètement démesuré par la Défense, la Ligue des droits de l'homme et les associations locales. Alors, résistance et sabotage, malgré des coups répressifs, la lutte n'a cessé d'évoluer et de se consolider en 2019. 3000 personnes défilèrent dans les rues de Nancy et des anarchistes attaquèrent la prison de Maxéville. C'est dans la banlieue de Nancy, hein, Maxéville. Alors, l'action directe, eh bien, devient à nouveau un moyen